Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment les groupes armés d'extrême droite s'organisent-ils au Canada? Un texte de Simon Gionnet, paru le 9 juillet 2025 dans Le Devoir. La GRC a procédé mardi le 8 juillet 2025 à l'arrestation de 4 Québécois, dont 2 membres actifs des Forces armées canadiennes, pour avoir facilité une activité terroriste qualifiée d'extrémisme violent à caractère idéologique. Un événement qui remet de l'avant la question de la radicalisation dans les forces armées canadiennes, mais aussi l'existence bien réelle de groupes armés suprémacistes blancs au Canada. Le Devoir fait le point avec Evan Balgord, directeur général du Réseau canadien contre la haine, et avec le professeur spécialisé en terrorisme et en mouvement d'extrême droite, Yannick Veilleux-Lepage. Selon vous, quelles sont les motivations des Québécois récemment arrêtés par la GRC? Yannick Veilleux-Lepage. C'est une idéologie ethno-nationaliste. C'est motivé par l'idée d'être capable de créer un territoire de non-droit où l'idéologie extrémiste d'extrême droite serait capable de rebâtir une société. Ce n'est pas un projet nouveau. Aux États-Unis, on a vu plusieurs milices citoyennes mener des efforts pour acheter des territoires ou des parcelles de terrain afin de créer une société parallèle. Evan Balgord. On ne connaît pas encore dans le détail les idéologies de ces accusés, mais on peut trouver pour le moment sur l'un de leurs profils Facebook des pages suivies et des publications allant de la droite à l'extrême droite. Nous avons trouvé des pages contenant des propos explicitement antiféministes, transphobes, pro-Trump ou pro-russes et d'autres publiant des mèmes antisémites. C'est un mélange hétéroclite et contradictoire. Quelle est l'importance des groupes armés extrémistes au pays? Evan Balgord. Il y a eu, au fil des années, différentes itérations de groupes d'extrême droite à tendance antigouvernementale, généralement dirigés par des nationalistes blancs et qui ont fusionné avec le temps. Notre organisation s'intéresse surtout aux groupes correspondant au modèle de « club actif » qui partagent des convictions nationalistes blanches et qui cherchent à recruter et à agir hors ligne. On parle de groupes plus sérieux, avec un processus d'acceptation, qui se rencontrent pour s'entraîner, qu'il s'agisse d'entraînement aux arts martiaux mixtes et au combat ou d'entraînement militaire et au tir. Le groupe nationaliste canadien d'extrême droite Diagolon et sa sous-division Second Son Canada ou le groupe Nationalist 13 en sont les principaux exemples. Dans quelle mesure les forces armées canadiennes peuvent-elles nourrir la radicalisation ou l'extrémisme? Yannick Veilleux-Lepage. Il y a vraiment 3 stades par lesquels la radicalisation peut avoir lieu. Premièrement, un individu peut être déjà radicalisé et vouloir rentrer dans les forces armées pour avancer sa cause idéologique, aller chercher un entraînement militaire ou médical, par exemple, ou même avoir accès à des armes ou à des explosifs. Les forces armées effectuent un travail de sélection, screening, mais on sait qu'il existe des forums ou des sites comme Telegram qui donnent des conseils pour cacher ses idées ou ses croyances afin d'être ennemi. Il y a aussi des individus qui se radicalisent durant leur service, comme c'est le cas de 2 membres fondateurs de la Meute qui ont fait plusieurs déclarations publiques disant que leur radicalisation et leur décision de créer le groupe se sont catalysées durant leur expérience en Afghanistan. Quant au 3e stade, on parle d'une radicalisation après le service, lorsqu'un individu a perdu le sentiment d'appartenance et l'aspect social qui venait avec l'armée. Comment les groupes armés nationalistes ont-ils gagné en influence? Evan Balgord. Il y a évidemment plusieurs raisons individuelles, mais on observe certains dénominateurs communs. l'escalade du nombre de personnes croyant aux théories du complot durant la pandémie de COVID-19 a joué un rôle très fort. Si vous fréquentiez des espaces conspirationnistes sur la COVID, tôt ou tard, vous alliez tomber sur d'autres théories du complot qui peuvent être de nature raciste, antisémite ou haineuse. Le groupe d'extrême droite Diagolon a pris une ampleur considérable durant cette période. Comme plusieurs groupes suprémacistes, Diagolon diffuse des vidéos en direct, produit de la propagande en ligne, fait des entrevues, crée des affiches et du contenu partageable. C'est de cette façon qu'il recrute, établit un réseau de contacts ou d'amis, puis développe un modèle de club actif. Les membres essaient ensuite de se rencontrer en personne et de s'entraîner. Quelles sont exactement leurs intentions politiques? Even Balgward. Leurs motivations sont diverses. Veulent-ils changer le gouvernement ou le renverser? Ils ne croient pas en tout cas aux partis politiques en place. Ils ne pensent pas qu'il existe une solution politique à leurs revendications nationalistes, racistes ou antisémites, ce qui est un peu un signal pour laisser entendre que la violence est inévitable. Il y a aussi une branche qui incite ses partisans à recourir à la violence afin d'accélérer ce qu'elle considère comme un effondrement inévitable de la société, dans le but de s'emparer du pouvoir et de l'utiliser contre les personnes qu'elle voit comme leurs ennemis pour des raisons politiques, raciales ou liées au genre. Mais il faut aussi rappeler que l'un de leurs motifs est aussi financier. Leur travail consiste à produire du contenu nationaliste et raciste pour lequel un public les rémunère. Ces groupes représentent-ils un risque pour la sécurité publique? Even Balgward. C'est difficile à dire. D'un côté, ces groupes vont désavouer publiquement la criminalité, la violence ou le maniement d'armes à feu. Mais de l'autre, ils pratiquent l'incitation à la violence envers des individus et des groupes minoritaires ou précis. Yannick Veilleux-Lepage. Il y a des risques. Il reste que le nombre de personnes qui se radicalisent reste infiniment petit comparativement aux 60 000 membres des forces régulières. Le problème, c'est que le dommage qu'ils peuvent faire est disproportionné. C'était « Comment les groupes armés d'extrême droite s'organisent-ils au Canada? » Un texte de Simon Gionnet paru le 9 juillet 2025 dans Le Devoir.
Y a-t-il un sucre meilleur qu'un autre? Un texte de Mathieu Perrault paru le 20 juillet 2025 dans La Presse. Le sucre de canne, est-il meilleur que le sirop de maïs? Comme l'affirme Donald Trump, une conviction telle que le président américain a assuré avoir demandé à Coca-Cola d'utiliser du vrai sucre de canne dans le Coke aux États-Unis. Un peu. Mais ce n'est pas si simple. La quantité de sucre dans une canette de Coca-Cola, quelle que soit sa provenance, s'approche du maximum quotidien recommandé pour un adulte. Donc, en boire régulièrement n'est pas bon pour la santé. Une canette de Coca-Cola, c'est l'équivalent de 10 cuillères à thé de sucre. C'est énorme, dit Stéphanie Chevalier, nutritionniste à l'Institut de recherche du CUSUM. Si quelqu'un mettait 10 cuillères à thé de sucre dans son café, on trouverait ça épouvantable. Plusieurs organismes, dont la Fondation Cœur et AVC, recommande de ne pas consommer une quantité de sucre ajouté qui dépasse 10 % des calories ingérées quotidiennement. Pour un régime de 2000 calories par jour, cela correspond à environ 50 g de sucre ajouté par jour. Le sucre ajouté n'inclut pas ce qui se trouve naturellement dans les aliments comme les fruits, les pâtes, les patates ou le lait, entre autres. Mais le type de sucre fait aussi une différence. Le sirop de maïs décrié par le président des États-Unis a probablement un effet plus négatif sur le foie que le sucre de canne quand on le consomme de façon excessive. Il y a pas mal de preuves scientifiques que le sirop de maïs à haute teneur en fructose, SMHF, lorsque consommé en excès, augmente le gras dans le foie, dit Madame Chevalier. Ça cause une stéatose hépatique. Le SMHF est aussi associé à davantage d'inflammation. Ces deux éléments nous portent à croire que ce type de sucre est plus mauvais que le sucrose, comme le sucre de canne. Le SMHF est utilisé par l'industrie alimentaire depuis des décennies parce qu'il n'est pas cher, se conserve bien et se dilue bien dans les boissons, étant déjà sous forme liquide. Pourquoi le sirop de maïs est-il plus dommageable pour le foie que le sucrose? Parce qu'il est métabolisé différemment. Le glucose et le fructose vont directement dans le foie. Mais le fructose va créer de nouveaux acides gras, dit Madame Chevalier. Normalement, ce gras va être relâché dans la circulation sanguine, mais quand il y en a beaucoup, le gras s'accumule dans le foie. Le sucrose n'est qu'en partie transformé en gras par le foie. Une partie du sucrose est transformée en glycogène, puis relâchée dans la circulation, ce qui va élever la glycémie, explique la nutritionniste de McGill. Une minorité de biologistes, dont certains reçoivent du financement d'entreprises alimentaires, croient que le SMHF n'est pas plus dommageable pour le foie que les autres sucres. Ce qui compte, selon eux, c'est la quantité de calories ingérées. Rémi Rabazaloret, endocrinologue à l'Institut de recherche clinique de Montréal, IRCM, et président du Conseil professionnel de Diabète Québec, estime que la métabolisation du SMHF et du sucrose par le foie est bel et bien différente. Mais je ne suis pas sûre que ça a un effet significatif sur la santé. Le message, c'est qu'on mange trop de sucre raffiné, insiste-t-il. Selon lui, même si on respecte les recommandations de ne pas dépasser 10% des calories quotidiennes, en se limitant à une canette de boisson gazeuse et en ne prenant pas d'autres sucres ajoutés, il n'est pas sain de consommer autant de sucre en une seule fois. Il est mieux que le sucre ajouté soit réparti dans la journée, souligne le spécialiste. Pourquoi Donald Trump s'en mêle? Coca-Cola n'a pas confirmé ce qu'a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. J'ai demandé à Coca-Cola d'utiliser du vrai sucre de canne dans le Coke aux États-Unis et ils ont accepté. Par voie de communiqué, la multinationale a indiqué apprécier l'enthousiasme du président Trump. Cette sortie fait écho à de nombreuses déclarations de Robert F. Kennedy, le secrétaire à la santé des États-Unis, qui a dénoncé la présence de SMHF dans les boissons gazeuses. En mai, un rapport d'une commission visant à redonner sa santé à l'Amérique, MAA, avait aussi ciblé le SMHF. Selon l'agence Reuters, certains pays, dont le Mexique et plusieurs pays européens, utilisent déjà du sucrose pour le Coca-Cola. Ce n'est pas le cas au Canada. Donald Trump boit, quant à lui, du Coke Diet sucré à l'aspartame. Selon la BBC, il a fait installer dans le bureau ovale de la Maison-Blanche un bouton spécial qui lui sert à demander qu'on lui apporte un Coke Diet. En savoir plus. 95 calories par jour, consommation de boissons gazeuses par habitant en Amérique du Nord, contre 90 en Amérique du Sud et 50 en Europe. Source: The Lancet. 10. Les Canadiens pour qui les boissons gazeuses sont le principal breuvage en consomment 10 fois plus que la moyenne des gens. Source Public Health Nutrition. C'était « Y a-t-il un sucre meilleur qu'un autre? » un texte de Mathieu Perrault, paru le 20 juillet 2025 dans La Presse.
Loin de la guerre, près du cœur. Un texte de Golnouch Sarlac, paru le 5 juillet 2025 dans L'Eau vive. En Saskatchewan, les immigrants originaires du Moyen-Orient portent encore en eux le poids des conflits passés et présents. Malgré la distance, la guerre continue de hanter leur quotidien, générant en eux culpabilité, inquiétude et un profond sentiment d'impuissance. Abdullah Suleiman, arrivé en Saskatchewan depuis Gaza en 2019, déplore la situation de ses proches restés au pays. « Ma famille vit une situation catastrophique. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de médicaments. Je me sens coupable d'avoir un toit, de la sécurité, de la nourriture, alors qu'ils n'ont rien. » Se sentant coupable, il suit les nouvelles en continu, guettant chaque nouvelle attaque. Son espoir, que la Palestine soit libre après 77 ans d'occupation. Une distance qui n'efface rien. Pour Cynthia Kabazian, venue du Liban, les quelques 10 000 kilomètres de distance ne changent rien à la douleur. Une partie de moi est encore là-bas. On vit ici, dans un pays de paix, mais le cœur reste avec ceux qu'on a laissés. Chaque matin, j'allume la télévision entre l'espoir et la panique. Cynthia rêve d'un jour où la paix règnera sur toute la région, un jour où elle pourra enfin dormir sereinement. Pour Roya Mohammad Younes, originaire d'Afghanistan, la guerre est une partie intégrante de ses vies, si bien qu'elle a du mal à ne pas la ressentir même depuis Saskatoon. « J'ai grandi dans la guerre. Ici, j'essaie de vivre normalement, mais je pense tout le temps aux enfants là-bas. » La jeune femme dit aimer profondément Saskatoon, où elle se sent en sécurité, tout en continuant à porter les souffrances de ceux restés au pays. Entre deux mondes. Pour d'autres, la sensation de tiraillement entre deux mondes est difficile à gérer. C'est le cas de Kimia Kazemi, étudiante iranienne à Saskatoon, qui fait part de son vécu avec une grande émotion. Chaque fois que je lis une nouvelle sur la guerre en Iran, je fonds en larmes. Je ressens une profonde culpabilité d'être ici, en sécurité, alors que ma famille vit dans l'angoisse. L'étudiante explique que le conflit actuel entre l'Iran et Israël a intensifié cette anxiété. Ces jours-ci, nous n'avons aucune tranquillité. Notre état mental est vraiment mauvais. Même si nous vivons loin, la guerre ne nous quitte pas. Alors Kimia se raccroche à la poésie persane, comme un refuge pour exprimer sa douleur et sa nostalgie. « Je rebâtirai ma patrie, même avec les briques de ma propre vie. » La jeune femme confie aussi que malgré toutes ses années de déplacement, en Suisse, à Londres, à Dubaï, elle n'a jamais vraiment trouvé la paix intérieure. La guerre, on croit qu'elle est loin, mais quand elle touche ta famille, elle vit en toi, assène-t-elle. Et d'ajouter, les gens autour de moi pensent que la guerre, c'est quelque chose de lointain, réservé au Moyen-Orient. Mais pour nous, c'est notre quotidien. Même si Kimia apprécie la communauté de Saskatoon où elle a élu domicile, un certain isolement la frappe. Je sens que ceux qui n'ont jamais vécu la guerre ne peuvent pas vraiment nous comprendre, et ça me rend profondément triste. À des milliers de kilomètres de leur pays d'origine, ces néo-saskatchewanais portent les cicatrices invisibles de conflits qui ne s'arrêtent résolument pas aux frontières. C'était « Loin de la guerre, près du cœur », un texte de Golnouch Sarlac paru le 5 juillet 2025 dans L'Eau vive.
Fuite massive de mots de passe, quatre gestes pour rester en sécurité. Un texte de Raphaël Passalacqua Loli, paru le 2 juillet 2025 dans Protégez-vous. Une fuite massive de mots de passe pourrait, selon CyberNews, vous exposer à des risques d'usurpation d'identité. Faut-il paniquer? Pas vraiment. Mais il serait prudent d'en profiter pour adopter quelques bons réflexes et mieux protéger vos comptes en ligne. Selon des experts, la fuite reste à être confirmée. Si elle se confirme, certaines entreprises pourraient être tenues d'aviser la Commission d'accès à l'information du Québec, CAI, ainsi que les personnes concernées. Pour l'instant, la CAI affirme suivre l'évolution de la situation. Entre-temps, rien ne vous empêche d'agir pour sécuriser vos comptes. Êtes-vous touché? Vérifiez si vos mots de passe ont été compromis grâce à l'outil en ligne PWNED Passwords disponible à l'adresse suivante haveibenpwned.com/passwords. Vous pouvez aussi voir si vos adresses courriel figurent parmi les fuites connues ici. haveibenpwned.com. Par prudence, modifiez d'abord vos mots de passe, puis effectuez la vérification sur les anciens que vous aurez préalablement notés. Si c'est le cas, vous pouvez renforcer dès maintenant la sécurité de vos comptes. Adoptez les bons réflexes. 1. Changez vraiment vos mots de passe. En cas de fuite, modifiez vos mots de passe, surtout s'ils sont faibles, utilisés pour plusieurs services ou faciles à deviner. Selon Thierry Gagnon, expert en cybersécurité et fondateur de Kelvin Zero, en 2025, un bon mot de passe doit compter au moins 12 caractères, être unique pour chaque service et assez complexe et, idéalement, combiner lettres, chiffres et symboles. Le Centre de la sécurité des télécommunications Canada, CST, recommande aussi les phrases de passe, des suites de mots simples à retenir, mais difficiles à deviner. Mais même robuste, un mot de passe exposé ne suffit pas à vous protéger. 2. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Pour qui souhaite acquérir de meilleures habitudes en cybersécurité, un gestionnaire de mots de passe constitue un outil précieux. Il génère des mots de passe forts, les enregistre, les synchronise entre vos appareils et vous alerte en cas de fuite. Fonctionnant comme un coffre-fort numérique, il devrait être protégé par un mot de passe maître que vous seul connaissez et avez mémorisé, selon le CST. Bien qu'il ne soit pas à l'abri des fuites, ces outils offrent, selon Thierry Gagnon, un compromis raisonnable entre sécurité et simplicité. L'expert les considère comme une solution transitoire, en attendant une adoption plus large des technologies sans mot de passe, plus sécurisée et durable. 3. Activer l'authentification multifactorielle, AMF. Ainsi, même si votre mot de passe est connu, une empreinte digitale ou un code temporaire sera aussi requis pour accéder à votre compte. le CST recommande d'activer l'AMF partout où c'est possible et de choisir un mot de passe solide et, idéalement, une donnée biométrique, comme votre empreinte digitale, votre photo ou votre voix. Bien qu'imparfaite, car elle repose toujours sur un mot de passe, l'AMF reste un outil essentiel et facile à configurer avec un gestionnaire de mots de passe. 4. Activer les clés d'accès lorsque cette option est proposée. Les clés d'accès, ou passkeys, remplacent complètement les mots de passe. Elles vous permettent de vous connecter à vos comptes avec un NIP ou une donnée biométrique sans avoir à inscrire ou à retenir un mot de passe. Elles procurent un niveau de sécurité supérieur à celui d'un mot de passe combiné à une AMF. Invisible pour l'utilisateur, résistante à l'hameçonnage et liée à un seul appareil, elles sont beaucoup plus sécuritaires. Recourez-y lorsqu'elles sont offertes. Vers un monde sans mot de passe? Pourquoi les clés d'accès ne sont-elles pas encore la norme partout? Parce que plusieurs services tardent à les adopter, faute de pression ou de responsabilisation. Mais la tendance s'inverse. Les entreprises réalisent qu'elles peuvent à la fois réduire les risques et améliorer l'expérience utilisateur, un doublé qui est rare en cybersécurité, selon Thierry Gagnon. Est-ce assez pour être protégé? L'expert se fait rassurant. Ce n'est pas à tout un chacun de devenir expert sur le sujet, mais bien aux divers services d'offrir à leurs utilisateurs des outils simples à employer et sécuritaires. En adoptant de bons réflexes, des mots de passe forts, l'AMF et les clés d'accès où c'est possible, vous faites déjà l'essentiel. C'était « Fuite massive de mots de passe, 4 gestes pour rester en sécurité ». Un texte de Raphaël Passalacqua Lolli, paru le 2 juillet 2025 dans Protégez-vous.